Bien, nous pouvons reprendre. Donc, en arrivée, une fois mis en place ce double contexte, celui de l'écriture, de la rédaction, de la composition du texte, celui de la publication du livre, à cette notion de sprezzatura. Elle apparaît au chapitre 26, alors je dis tout de suite que les divisions qu'on trouve d'ailleurs dans les éditions italiennes ou l'édition de poche française sont des divisions qui ont été introduites par des éditions modernes, je ne sais pas à partir de quelle date, mais sans doute 19e ou 20e siècle, de façon à scander le texte en unités textuelles plus limitées, alors qu'effectivement, évidemment, les éditions anciennes sont un texte en continuité pour chacun des quatre livres du Cortegiano. Et le terme apparaît donc dans ce chapitre 26, présenté ainsi, pour employer peut-être un mot nouveau, per dire forse una nuova parola, et qui est présenté comme une règle universelle qui serait la caractéristique distinctive, essentielle, fondamentale du parfait courtisan, dont le portrait en parole est l'objet de la conversation à partir du chapitre 13. Alors, il faut comprendre comment arrive cette question de du portrait en parole du parfait courtisan. Elle arrive parce que auparavant ont été faites par les courtisans rassemblés dans la compagnie de cette soirée première. Plusieurs propositions de conversation ont été avancées, plusieurs conversations, plusieurs discussions qui auraient porté finalement sur une matière assez traditionnelle de ces compagnies lettrées qui reprennent un peu des cours d'amour médiéval et qui sont évidemment la matière galante, la matière amoureuse. L'un des participants propose comme sujet de dire quelle vertu louable ou quel défaut excusable doit avoir l'être aimé. Un autre, ce que signifie la lettre S qui se trouve sur le pendentif que la duchesse porte au front. Un autre sur les raisons et des déplaisirs, des dédains d'amour. Donc, toute une série de thèmes qui appartiendraient à une forme plus classique d'une conversation lettrée, galante, mondaine, mais qui sont rejetés pour diverses raisons les uns après les autres, jusqu'au moment où l'un des participants propose un autre jeu, puisque chacune de ces conversations est présentée comme un gioco, et non pas comme un traité, un manuel, un ensemble de préceptes. Et celui-là est Federico Fregoso, qui propose le jeu suivant. Parce qu'il considère que si en quelques lieux se trouvent des hommes qui méritent d'être appelés bons courtisans et qui sachent juger de ce qui appartient à la perfection de la courtisanerie, l'on doit croire à bon droit qu'ils se trouvent ici. Pour donc faire taire beaucoup de sots qui, parce qu'ils sont présomptueux et ineptes, croient acquérir le nom de bons courtisans, je voudrais que le jeu, gioco, de ce soir, fût tel qu'on choisit quelqu'un dans la compagnie à qui on donne à charge de former en parole un courtisan parfait, en spécifiant toutes les conditions et qualités particulières qui sont requises chez celui qui mérite ce nom. Et quand les choses ne sembleront pas convenir, qu'il soit permis à chacun de contredire, comme dans les écoles de philosophie, celui qui soutient les conclusions. Formar con parole un perfetto cortegiano. C'est donc là le sujet qui est admis et qui la tâche en est confiée à un autre des participants, Lodovico de Canossa, qui est un gentilhomme humaniste, ami d'Erasme, possesseur d'une imposante bibliothèque. On voit comment s'introduit l'idée du courtisan parfait comme finalement une sorte de métadiscours, non pas les courtisans discutant sur les sujets en particulier amoureux ou galants qui sont leur conversation ordinaire, subtile, divertissante, mais finalement les courtisans conversant sur eux-mêmes, sur ce qu'est l'idéal de la courtisanerie, puisque le mot existe en italien et qui a été respecté ici dans cette traduction. Alors on voit qu'il y a donc plusieurs originalités dans cette mise en scène du moment où arrive la conversation sur le courtisan parfait. La première, c'est évidemment l'opposition entre un jeu et un traité. On a déjà entendu qu'il ne s'agit pas d'un corps de préceptes. Il ne s'agit pas d'un manuel didactique. Il y a la rupture ici avec toutes les traditions des traités, que ce soit le traité de l'institution du prince ou que ce soit les manuels de civilité organisés comme un ensemble de préceptes. On a donc une liberté de la construction du ton de l'échange qui est là donné. On voit aussi que le jeu implique des règles et que l'une des règles, c'est non seulement de pouvoir, mais de devoir contredire. À un moment donné, César Gonzaga, qui est un des participants, intervient et dit « on ne devrait pas interrompre le cours de ce propos qui est tenu par Ludovico de Canossa. On ne devrait certainement pas interrompre le cours de ce propos, mais si je me taisais, je ne me satisferais pas à la liberté que j'ai de parler, ni au désir de savoir une chose. Et qu'il me soit pardonné si, alors que je dois porter la contradiction, je pose une question. Car je crois que cela m'est permis, à l'exemple de Messire Bernardo, qui, par un désir excessif d'être estimé bel homme, a contrevenu aux lois de notre jeu en posant une question et en ne contredisant point. » Alors, la duchesse intervient. « Vous voyez comment, d'une seule faute, il en procède plusieurs. C'est pourquoi celui qui faute et donne le mauvais exemple, comme Messire Bernardo, mérite d'être puni non seulement de sa faute, mais aussi de celle des autres. » Une des règles du jeu, c'est d'apporter la contradiction et non pas d'intervenir pour donner son opinion ou pour même poser une question, même si la règle est enfreinte et est avec ironie condamnée par la duchesse. On est donc dans un jeu de paroles dans lequel la conséquence est le statut de ces paroles. Et ce qui renverrait justement à ce paradoxe, le livre est publié sous le nom de Castiglione et Castiglione est absent du contenu du livre. C'est-à-dire que, comme le mécanisme que je décrivais de cette parole rapportée qui fonde l'écriture de Castiglione, on se trouve là face à un autre élément du jeu. C'est-à-dire que les opinions de Castiglione ne sont jamais exprimées en première personne. Elles sont ou occultées ou disséminées par la pluralité des interventions des participants. Et ces pluralités des interventions des participants étant régies par cette règle qui est la règle d'une affirmation qui doit être contredite. Il est donc illusoire de penser simplement, naïvement, immédiatement que l'un des personnages est Castiglione et que donc ce que pense Castiglione serait représenté par exemple toujours par ce que dit Ludovico de Canossa. Et d'autre part, il est aussi illusoire de savoir qu'elle est entre des propositions contradictoires, celle que le lecteur doit choisir s'il veut être fidèle à ce que pense Castiglione. On voit qu'il y a là une question importante, puisque le livre va acquérir rapidement un statut de manuel du courtisan, alors que le jeu qui le fonde est un jeu dans lequel les opinions sont mobiles, fluides, derrière, quelque chose qui a à voir avec une mise en scène théâtrale. Les courtisans sont des personnes bien réelles, de chair et d'os, mais finalement agissent dans le livre comme des personnages de théâtre. Et de la même façon que l'on ne peut pas déduire des personnages de théâtre et de leur dire ce que seraient les opinions du dramaturge, ici aussi, la figure de Castiglione comme auteur du livre est brisée, éclatée, démultipliée dans ses prises de parole contradictoires, parce que c'est la règle des courtisans. On voit donc qu'il y a là une raison d'ailleurs du choix du dialogue, qui est un genre important, dominant, non seulement dans les textes de la littérature, entre guillemets, c'est-à-dire de la fiction, mais qui est un genre que l'on voit ici pour un discours politique ou éthique, que l'on verra au cours du XVIIe siècle, même pour le texte scientifique, le texte de Galilée de 1632, les dialogues, ou le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, a la même vertu ou la même fin, c'est-à-dire de disséminer l'opinion entre plusieurs protagonistes. On a donc là une première réalité qu'on ne peut pas oublier dans le commentaire du texte, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un jeu, pas de préceptes, pas d'un manuel, et que donc les conséquences en sont sur la relation entre Castiglione comme l'auteur du livre et les courtisans comme auteurs de leurs opinions. Le deuxième élément très important dans ce passage, c'est cette idée de former par des paroles le portrait du courtisan parfait. Formar con parole un perfetto cortigiano. Parce qu'on retrouve là ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'un système d'équivalence qui est celui sur lequel est fondé, établi le texte de Castiglione, mais beaucoup d'autres. C'est-à-dire un système d'équivalence, d'ailleurs discuté dans le texte lui-même, entre l'écriture et la parole, entre le discours et l'image ou le corps, entre le dire et le faire. C'est cette équivalence qui fait qu'évidemment les moyens d'expression sont différents, mais que le contenu de ce qui est énoncé est identique, qui fonde non seulement dans ce cas-là, l'idée que l'on peut faire un portrait en parole, mais comme on l'a vu, le portrait de la cour comme discours, mais en même temps peinture, mais qui fonde aussi, finalement, deux autres choses. D'un côté, la perfection du courtisan en toute chose, elle doit être la même dans chacune de ses expressions, qu'elle soit du côté du dire ou du côté du faire, qu'elle soit du côté du discours ou du corps et de l'exercice corporel, et plus profondément, une réflexion de type épistémologique sur le fait que dans cette épistémologie, là, l'équivalence existe. On peut dire la même chose avec des moyens différents. Tout dépend de la circonstance. On peut choisir entre l'image ou le discours en fonction du public, du temps, du lieu, de la circonstance. Mais rien n'est perdu ou rien n'est ajouté, ou peu, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette idée que de la peinture va rester les traits plus que les couleurs ou les perspectives. Mais la vision dominante, qui sera brisée sans doute au cours du XVIIIe siècle, lorsque l'on pensera qu'il y a une relation de complémentarité, de supplémentarité, l'image peut montrer ce que le discours ne peut énoncer, le discours peut énoncer ce que l'image ne peut montrer, et qu'il y a une radicale différence entre la logique du discours oral, de la parole vive, et la logique de la mise en écriture. cette rupture-là, qui va donner un nouveau statut d'ailleurs dans les livres à la présence des images, elles ne sont pas là pour montrer ce que le texte énonce, mais justement pour montrer ce que le texte ne peut pas énoncer, la simultanéité des opérations, par exemple, ou bien la prolifération infinie de détails pour d'une scène. On a là un très grand basculement, mais le courtisan, le livre du courtisan est inscrit dans ce moment de l'équivalence qui justifie l'idée que par la parole, on peut faire un portrait. Le troisième élément dans ce point de départ, c'est celui du parfait courtisan. La perfection à laquelle pense Castiglione n'est pas une perfection philosophique. Et dès la lettre à Viseo, il met le projet à distance de la philosophie néoplatonicienne de la perfection idéale, c'est-à-dire l'idée qu'il s'agit, je cite, de laisser de côté la dispute du monde intelligible et des idées, cette perfection réalisée seulement par le détachement, la distance prise vis-à-vis de toute matérialité dans un monde idéal des perfections. Ce qui est l'objet du livre, c'est évidemment quelque chose de différent, qui est la construction collective d'un modèle qui résulterait du croisement des exemples ou des expériences ou que des lectures et qui, finalement, pourrait avoir la perfection non pas dans un absolu platonicien, mais comme la moindre imperfection possible pour un courtisan dans la réalisation de ce modèle parfait. Et un des traits qui caractérise dans l'écriture cette distance prise par rapport à une philosophie des idées pures serait évidemment la présence dans le texte de multiples exemples, de multiples anecdotes ou de multiples références assez vagues en général à des lectures. C'est-à-dire que le texte est comme une articulation entre ce qui serait des propositions universelles pour définir un modèle duquel devraient se rapprocher le plus possible ces incarnations et de l'autre côté une forme d'écriture rhétorique qui reste très liée avec la rhétorique de l'exemple. Comme vous le savez, c'était la forme dominante du sermon, établir des vérités universelles à partir de la... Non, à partir ou exprimer par des exemplats, des histoires, des cas, des exemples. Et cette rhétorique-là, qui implique le rapport entre le général et le particulier, entre l'exemple singulier et le principe universel, est une forme dominante de composition au-delà du sermon. C'est une forme de composition que l'on retrouverait, par exemple, dans les pièces de théâtre, ou bien, comme on le voit ici, dans un discours de statut moral et politique. Et c'est ce qui donne au livre, finalement, cette alternance qui le distingue de l'écriture des recueils de préceptes, et qui est d'introduire de la matière vive, puisque les exemples peuvent être des exemples pris dans le plus immédiat quotidien des courtisans, ou que les anecdotes peuvent être rapportées, et souvent d'ailleurs, comme le montre le livre 2, avec une dimension de facétie, d'ironie, de rire. Les protagonistes de Castiglione, très souvent, manient l'ironie, la satire et Henri. On voit dès la dédicace à Viseu, lettre à l'évêque de Viseu, énoncée par Castiglione, « Si je n'ai pu m'approcher par le style de l'image de cette idée, c'est-à-dire de l'idée du courtisan parfait, néoplatonicien, les courtisans auront beaucoup moins de peine à s'approcher par leurs actes de la fin et du but que je leur ai proposé en écrivant. Et si avec tout cela, ils ne peuvent obtenir la perfection, quelle qu'elle soit, que je me suis efforcé d'exprimer, celui qui s'en approchera le plus sera le plus parfait. C'est ainsi que quand de nombreux archers tirent sur une cible et qu'il n'y a personne qui touche le centre, celui qui s'en approche le plus est sans doute le meilleur que les autres. » Voilà la distance prise entre l'absolu d'un idéal de perfection platonicien et d'autre part cette idée d'un modèle qui est celui dont on doit s'approcher le plus possible. On voit aussi comment en assumant dans cette lettre le projet du courtisan idéal, Castiglione brouille un peu ce que j'énonçais en termes de jeu, puisque tout en laissant ouvert les éléments qui caractérisent ce courtisan dans des discours contradictoires, il assume, comme auteur du livre, la proposition. Alors, dans le portrait du courtisan parfait que commence Ludovico de Canossa, touche après touche, il a évoqué d'abord la naissance, pour lui, elle doit être noble, ce qui entraîne par contradiction des répliques sur le fait que peut-être cette condition n'est pas nécessaire. Pour lui, la profession fondamentale du courtisan est celle des armes. Il est avant tout homme de guerre, et de là sa maîtrise nécessaire de tous les exercices du corps et toute une partie de ce premier tracé du portrait est pour porter l'attention sur ce que doit être le courtisan dans la capacité, la maîtrise des armes, dans son monte du cheval, à la chasse, il doit savoir aussi nager, jouer la paume. Mais tous ces éléments, qui sont des éléments descriptifs, de pratique, d'exercice, qui sont en rapport avec la noblesse de son état, discuter pour savoir si elle doit être de sang ou si elle est une qualité que d'autres peuvent obtenir, et sa définition primordiale comme homme de guerre, amène à l'idée qu'il y a un élément essentiel qui peut-être caractériser ou qui doit caractériser le courtisan, alors même que d'autres pourraient pratiquer les mêmes exercices. Et cet élément essentiel, c'est celui de la grâce. L'intervention qui est donnée, est celle d'une remarque de César de Gonzaga à Ludovico de Canossa, qui est en train de tracer, de dessiner ce portrait. Voilà ce qu'il énonce. « Si j'ai bonne mémoire, il me semble, Seigneur Comte, le Comte de Canossa, que ce soir vous avez plusieurs fois répété que le courtisan doit accompagner ses actions, ses gestes, ses manières, en somme tous ses mouvements, de grâce. Et il me semble que vous considérez cela comme l'assaisonnement de toute chose sans lequel toutes les autres qualités et dispositions n'ont qu'un peu de valeur. En vérité, je crois que chacun se laisserait aisément persuader de cela, d'autant que par la force du mot, on peut dire que celui qui est pourvu de grâce est agréable. Mais du coup, il pose la question de cette grâce comme condimento, assaisonnement de toutes les actions, les gestes, les mouvements, il pose la question de savoir si cette grâce est un don de la nature qui serait lié à la naissance ou si cette grâce peut être le résultat de l'application et du travail. Mais parce que vous avez dit que c'est là souvent un don de la nature et des cieux, et aussi que quand il n'est pas vraiment parfait, on peut l'augmenter grandement par de l'application et du travail, je dirais que ceux qui ont la chance de n'être riches d'un tel trésor, comme certains que nous voyons, me semblent n'avoir guère besoin en cela d'un autre maître, puisque cette bienfaisante faveur du ciel les guide, presque malgré eux, plus haut qu'ils n'avaient désiré, et les rend seulement agréables, non seulement agréables, mais admirables à tout le monde. C'est pourquoi je ne parle point de ce don, car il n'est pas en notre pouvoir de l'acquérir par nous-mêmes, mais ceux qui, par nature, sont seulement aptes à devenir gracieux par le travail, l'industrie et l'application, je désire savoir par quel art, par quelle discipline, par quels moyens ils peuvent acquérir cette grâce, aussi bien dans les exercices du corps, dans lesquels vous estimez qu'elle est si nécessaire, qu'en toute autre chose qu'on fait ou qu'on dit. On voit donc que la question qui est là posée, c'est donc une distinction entre les courtisans pour qui cette grâce est naturelle, elle est un don, avec cette question de savoir si elle est intrinsèquement liée avec la noblesse, et ceux pour qui elle ne peut être, parce qu'imparfaite, que le résultat de ce qui est décrit comme studio, fatica, industria, discipline, l'application et travail. Ou bien arte, disciplina, modo, tous les termes qui renverraient à un travail, un apprentissage, à une étude, et finalement à une application. Et à partir de cette question posée par Cesare Gonzaga, Lodovico de Canossa va suivre cette idée en montrant que, évidemment, la réponse à cette question, pour ceux qui n'ont pas la grâce naturelle, serait de suivre l'exemple des maîtres. Avec une remarque extrêmement intéressante, puisque ici s'opère en quelque sorte un déplacement sur les pratiques du corps, sur les manières d'être, de ce qui était une technique fondamentale de la lecture, c'est-à-dire celle des lieux communs. Je cite. Et quand il semble déjà avoir fait profit, donc celui qui suit l'exemple d'un maître, il lui est très utile de voir et de pratiquer de nombreux hommes de cette profession, en particulier la profession des armes, et se gouvernant par le bon jugement qu'il doit toujours avoir pour guide, d'aller de l'un à l'autre en choisissant chez chacun des choses différentes. Et comme l'abeille, dans les prés verdoyants, va toujours cueillant les fleurs parmi les herbes, ainsi notre courtisan doit cueillir et voler cette grâce à ceux qui lui sembleront la posséder et prendre à chacun d'eux ce qui est le plus louable. Donc la première réponse, c'est imiter les maîtres, mais les imiter non pas avec cette idée qui serait d'imiter un maître, mais c'est pour ça que je parlais d'application à l'état pratique de la technique des lieux communs, c'est-à-dire de prendre des extraits, comme on le fait dans les textes, pour composer des recueils de ces lieux communs, rappelant qu'à la Renaissance, les lieux communs sont ce qu'il y a de plus universel, de plus sublime, de plus général. Ce sont les vérités universelles dans les textes. Je renvoie au livre de Francis Goyer, le sublime du lieu commun, ce qui deviendra au cours du peut-être 18e, sûrement 19e siècle, le lieu commun comme ce qu'il faut éviter, le dictionnaire des idées reçues à la Flaubert, était à la Renaissance ce qu'il y a de plus puissant, de plus sublime dans un texte, c'est-à-dire une vérité universelle qui est la condition de compréhension des exemples ou qui peut être déduite des exemples. Donc, cette idée des lieux communs, elle était fondée sur l'idée qu'on lit les textes pour extraire et que ces extraits peuvent être ensuite rassemblés par le lecteur dans un cahier de lieux communs qui va lui servir pour écrire, enrichir, donner l'abondance à ses propres compositions. Eh bien, dans le cadre de ce texte-là, on voit que c'est cette méthode-là qui est déplacée sur l'imitation des maîtres, chacun des maîtres pouvant être comme un des livres dans lesquels le courtisan va puiser des exemples particuliers et spécifiques. Et ce qui fait le lien, c'est évidemment la métaphore de l'abeille, puisque dans la technique des lieux communs, la métaphore la plus fréquente était celle du lecteur comme abeille, l'abeille qui va de fleur en fleur, qui butine, qui ramène le pollen et qui le dépose dans la ruche. Et donc le lecteur comme abeille ici est transformé en un observateur de ce qu'il y a de meilleur dans chacun des maîtres qu'il imite. Mais ce raisonnement-là, qui était une réponse finalement, pour ceux qui n'ont pas la grâce, l'acquérir suppose l'observation et l'imitation des maîtres, va entraîner sa propre limite, puisque on peut faire remarquer, comme le fait Canossa, que parfois cette imitation mal gouvernée, cette imitation besogneuse, servile, peut aller contre son propre propos, puisqu'elle imiterait ce qui serait le moins nécessairement imitable chez un modèle. Et il prend l'exemple d'un de nos amis que vous connaissez, donc cette proximité des exemples, qui voulait imiter le roi Ferdinand d'Aragon, Ferdinand II, et qui l'imitait jusque dans le défaut qu'avait ce roi, c'est-à-dire de tordant un coin de sa bouche, ce qui était une habitude que le roi avait contractée à la suite d'une maladie. Et donc, du coup, une imitation tellement proche, tellement servile, que finalement, elle détruisait ce qui aurait été son principe, c'est-à-dire de prendre chez Ferdinand non pas ce défaut lié à la maladie, mais ce qu'il y avait de gracieux. Et c'est là qu'introduit Castiglione, dans la parole de Lodovico de Canossa, le terme de sprezzatura comme une règle très universelle, c'est-à-dire la règle universelle est la suivante: pour toutes les choses que l'on fait, un écueil acéré et dangereux est l'affectation, et contre l'affectation, il faut pratiquer, pour employer peut-être un mot nouveau, la sprezzatura. Je prends le passage tout entier, mais j'ai déjà souvent réfléchi sur l'origine de cette grâce. Et si on laisse de côté ceux qui la tiennent de la faveur du ciel, je trouve qu'il y a une règle très universelle qui me semble valable plus que tout autre sur ce point pour toutes les choses humaines que l'on fait ou que l'on dit. Toujours cette équivalence ou cette unité entre le faire et le dire, c'est qu'il faut fuir, autant qu'il est possible, comme un écueil très acéré et dangereux, l'affectation, affettazione. Et pour employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine sprezzatura, qui cache l'art et qui montre que ce que l'on a fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser. Alors là, il y a évidemment une difficulté pour ce que j'essaye de faire, c'est le fait que l'objet finalement de ce cours ou de celui qui suivra est de montrer la difficulté de la traduction au XVIe siècle de ce terme opposé à l'affectation, sprezzatura, qui est un quasi-néologisme, et du coup ce qui entraînera l'incertitude, l'instabilité des traductions d'une langue à une autre ou dans une même langue. Il y a une très grande difficulté pour saisir le terme. Et donc, c'est pour ça que je le maintiens en italien dans mon discours, parce que si je donne une traduction qui deviendrait la traduction, on détruit évidemment cette incertitude en donnant d'emblée ce qui serait la bonne, la vraie, la juste traduction de sprezzatura. Et donc, jusqu'au moment d'étudier les traductions des XVIe, XVIIe siècles, je vais maintenir le terme en italien pour le situer à la fois dans son contexte sémantique de la langue italienne et dans ses incertitudes, ambiguïtés, complexités. Ce que l'on voit ici, très clairement, c'est que la sprezzatura est une manière de dire ou de faire qui produit la grâce. Et la grâce est aussi un terme complexe, puisqu'il a à la fois un sens passif et un sens actif. La grazia dont il est question dans le le texte de Castiglione est à la fois l'agrément, la beauté, l'élégance que projette celui qui a la grâce, et le terme a aussi un sens inverse, c'est-à-dire celui de l'admiration et du coup de la faveur ou du présent que fait celui qui reconnaît dans l'autre cette grâce. Et il y a là une tension que l'on pourrait voir, par exemple, dans le dictionnaire le vocabulaire de l'Académie de la Crusca de 1612, qui est un texte utile, puisque dans le cas où vous souvenez souvent dans l'espagnol, on peut utiliser pour avoir un sens plus ou moins moyen, ordinaire, commun des termes, le Tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias, qui est de 1611. Un équivalent possible, c'est ce vocabulario de l'Accademia della Crusca de 1612. Et la grâce, gratia, y est définie à la fois comme la beauté qui entraîne le plaisir ou l'amour chez l'autre et comme la faveur faite à quelqu'un qui est doté de cette grâce. On a donc la sprezzatura comme la condition de production de cette grâce dans les manières de dire ou que dans les manières de faire. C'est tous ceux chez qui la grâce n'est pas innée, donnée par nature. Il s'agit donc fondamentalement de faire apparaître comme naturel quelque chose qui est le résultat d'une application, d'un art, d'une discipline, d'une réflexion. Mais cet art, cette discipline, cette réflexion étant cachée, et que les choses sont faites, non pas par une application affectée de cet art, mais, comme le dit le texte, comme si cela était fait sans effort et quasiment sans y penser. On a donc là une première réalité qui prouve son contraire dans le fait que si l'art se donne à voir comme art, si l'effort devient visible, Castiglione écrit « il sforzarsi », montrer que l'on fait un effort pour être gracieux, tout est ruiné, et finalement ce qui est produit, c'est le contraire de la grâce, ce qu'il appelle la « disgrazia », c'est-à-dire le manque de grâce qui produit le manque d'estime et donc le manque d'admiration. Voilà donc qu'il y a là un premier dispositif qui est de considérer que la sprezzatura est une manière d'accompagner ce qui accompagne, puisqu'on l'a vu, la grâce est ce qui doit accompagner toutes les pratiques ou tous les dires, et pour ceux qui ne l'ont pas naturellement, la sprezzatura est ce qui accompagne cette grâce qui accompagne et qui doit cacher sous les apparences du naturel ce qui a été et est le résultat d'un apprentissage, d'un art, d'une réflexion. Les choses doivent paraître comme faites sans y penser et comme faites sans effort. Alors, pourquoi le mot ? C'est-à-dire de construire pour Castiglione, avec le S privatif de l'italien, un mot qui se ramène évidemment au mot prezzare, qui veut dire estimer la valeur, apprécier, et d'où le contraire, qui est n'attacher aucun prix, ne pas donner d'importance, mépriser, qui est sprezzare, avec le S privatif devant le verbe prezzare, ou comme équivalent, lorsqu'il n'y a pas d'abréviation du S privatif, disprezzare. Et donc c'est autour de ce verbe, donner de l'estime, donner de la valeur, estimer la valeur, prezzare, et de son contraire, n'en pas donner, n'attacher aucun prix, ne montrer aucune importance pour une chose, disprezzare ou sprezzare, que se construit sprezzatura comme un nom. Alors, si on se réfère au vocabulaire de l'Académie de la Crusca de 1612, on ne trouve pas sprezzatura, mais on trouve évidemment sprezzare, qui est comme le contraire de prezzare ou pregiare, donner du prix estimé. Et il y a deux exemples, un dans Boccace et l'autre dans Pétrarque. L'amour ne donne pas de prix, n'apprécie pas le frein de la raison. Alors, du coup, la sprezzatura est nécessaire car elle est le véritable art, et le véritable art est celui qui ne paraît pas être art. Et c'est à cette condition-là que l'estime, la reconnaissance, la grâce faite est produite par la grâce montrée. Dans le même chapitre qui a défini cette opposition fondamentale entre l'affectation et la sprezzatura, la thèse s'appuie sur un certain nombre de preuves qui sont les preuves livresques. Canossadi, et je me souviens d'avoir lu jadis que certains anciens orateurs des plus excellents s'efforçaient en trop habileté de faire croire à chacun qu'ils n'avaient aucune connaissance des lettres, et en dissimulant leur savoir, ils faisaient croire que leur discours était fait très simplement, selon ce que leur suggérait la nature et la vérité, plutôt que l'étude et l'art, qui, s'ils avaient été reconnus, auraient mis le doute dans l'esprit du peuple, qui aurait craint d'être trompé par eux. Donc un exemple de lecture sur les orateurs anciens qui cachent leur savoir pour que ce qu'ils disent paraisse naturel et donc du coup ne soit pas suspecté de tromperie ou de manipulation. Il prend un deuxième exemple qui n'est plus du côté de la parole et du discours, mais qui est du côté des manières de faire et qui n'est plus un souvenir de lecture, mais qui est un exemple proche des courtisans. Pour montrer ce qui est justement le contraire de la sprezzatura, c'est-à-dire ce naturel qui cache l'art. Et lorsque il y a une utilisation affectée de cette technique, là encore, elle peut produire son contraire. Vous voyez donc comment le fait de montrer l'art est une étude si poussée, et une étude si poussée enlève la grâce de chaque chose. Quel est celui de vous qui ne rit quand Messire Pier Paolo danse à sa propre mode, avec des petits sauts et des pointes, sans remuer la tête, comme s'il était tout de bois, avec tant d'attention qu'il semble certain qu'il aille en comptant ses pas? Quel œil est si aveugle qu'il ne voit chez ce personnage la disgrâce de l'affectation, et chez beaucoup d'hommes et de femmes qui sont ici présents, la grâce de cette désinvolture nonchalante, car les mouvements du corps, on l'appelle volontiers ainsi, qui s'exprime par un mot, par un rire, par un geste, et qui montre que l'on n'attache pas d'importance à ce que l'on fait, et que l'on pense à toute autre chose pour faire croire à celui qui regarde que l'on ne saurait ni ne pourrait se tromper. On voit donc que le deuxième exemple est un exemple dans lequel la dissimulation de l'art est si affectée qu'évidemment elle le révèle. Et dans ce cas-là, il y a comme une disgrâce de l'affectation qui s'oppose à la sprezzata desinvoltura, à ce naturel de la disposition. Tout ce qui est derrière cette idée est évidemment de considérer que les gestes ou les paroles sont là pour produire un effet sur celui qui les entend ou qui les voit. On est dans un modèle dans lequel les comportements n'expriment pas nécessairement une sorte d'authenticité du sentiment ou de l'âme, mais sont comme des machines à produire des effets sur l'autre, et en particulier dans ce cas-là, à produire la croyance dans la grâce de celui qui regarde, des gestes qui apparaissent faits sans y penser, dans l'immédiateté et la sûreté du naturel. On a cet fondement qu'on retrouve dans les traités de civilité, qu'on retrouve dans le livre de Gratian, c'est-à-dire l'idée que les comportements sont des instruments, des machines à produire de la croyance chez l'autre. Et dans ce cas-là, la grâce doit produire la grâce. La grâce de la conduite produit la grâce comme reconnaissance, comme estime, comme admiration. Mais produire cet effet est extrêmement complexe, puisque chaque fois menacé de tomber dans son envers. Et la pratique d'une sprezzatura qui serait trop affectée va produire de la disgrazia et non pas la grâce attendue. On voit qu'il y a là une idée que chaque modalité du comportement peut se transformer en son contraire et chaque fois menacée par cet retour de l'affectation. L'affectation s'opposant à la sprezzatura, enfin la sprezzatura s'opposant à l'affectation, mais la sprezzatura elle-même peut devenir affectation lorsqu'elle est exagérée, rigide, besogneuse. Et c'est ce qu'on peut voir lorsque le comte Canossa dit: ne vous apercevez-vous pas que ce que vous appelez chez Messire Roberto de la sprezzatura est de la véritable affectation? Car on voit clairement qu'il s'efforce, avec tout le soin possible, de montrer qu'il ne pense pas à ce qu'il fait, et cela, et y penser trop. Et parce qu'elle dépasse les limites du juste milieu, cette sprezzatura est affectée et malséante, ce qui donne un résultat contraire à celui qui était recherché, à savoir cacher l'art. Et il y a là une idée qui s'introduit, que cette sprezzatura devenue affectation, alors qu'elle est construite pour être opposée à l'affectation, doit être pratiquée avec ce qui est dit ici, c'est-à-dire les limites du juste milieu. Une exigence dans le texte italien de la médiocrita. Mais la médiocrité au sens traditionnel, au sens ancien, c'est-à-dire le juste milieu entre les excès. Et c'est comme cela d'ailleurs que dans le vocabulaire de l'Académie de la Crusca de 1612, on trouve la définition équivalente du latin médiocritas de mezzanita, c'est-à-dire ce qui est le milieu entre le trop et le peu, entre l'excès et l'insuffisant. Et une des règles fondamentales pour pratiquer la sprezzatura d'une manière désinvolte, libre, et qu'il fasse passer l'art pour naturel, est de se tenir à cette médiocrité identifiée comme, dans le texte, la modestie, la modération, la mesure, la simplicité. En absence de sprezzatura est une forme de disgrazia, et un excès de sprezzatura qui se révèle comme tel est aussi une raison de disgrazia. Et les exemples sont pris de cette nécessité du juste milieu, de la médiocritas, de la modération, de la mesure. Par exemple, le fait que l'homme de guerre ne doit pas exagérer l'exhibition de sa condition ou de son état, mais doit garder avec mesure cette caractéristique de sa condition. Et là, un exemple pour montrer comment le texte n'a rien de de sévère ou d'austère. Il est lui-même pris par cette idée d'une grâce. C'est avant même d'avoir introduit la notion de sprezzatura que Canossa évoque cela. Nous ne voulons pas pourtant que le courtisan comme homme de guerre pousse la fierté jusqu'à faire toujours le brave en parole en disant qu'il a pris pour femme sa cuirasse, qu'il ne terrorise les gens qu'avec des regards féroces, comme nous avons vu souvent le faire à Berto. Et ce Berto était un bouffon de la cour du pape. Car à des hommes de cette espèce, on peut dire à bon droit ce qu'une dame de haut rang, dans une noble compagnie, dit plaisamment à quelqu'un que je ne veux pas nommer pour l'instant. Comme elle l'avait invité à danser, pour lui faire honneur, il refusa. Il refusa de même d'écouter de la musique et plusieurs autres divertissements qui lui étaient offerts, disant toujours que des futilités de ce genre n'étaient pas de son métier. De manière que finalement, la dame lui demanda « Quel est donc votre métier ?» Et il répondit avec un visage rébarbatif « Combattre ». « Je pense, répondit aussitôt la dame, que maintenant que vous n'êtes pas à la guerre, ni sur le point de combattre, il serait bon que vous vous fassiez bien graisser et ranger dans une armoire avec tous vos harnais de guerre, jusqu'à ce qu'on ait de nouveaux besoins de vous, de peur que vous ne deveniez plus rouillé que vous n'êtes. » Tous les assistants donc, de la soirée partirent d'un grand rire et elle laissa ainsi ridiculiser, enfin les assistants de la scène et de la soirée, partir d'un grand rire, et retournant à l'histoire, elle le laissa ainsi ridiculiser dans sa sotte présomption. Et il y a la même remarque qui est faite toujours avant l'introduction de la sprezzatura, mais pour introduire les notions qui doivent l'accompagner, c'est-à-dire les notions de simplicité, de mesure, de modération, la même remarque à propos du courtisan comme homme de guerre et de sa capacité à se louer lui-même. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, l'un des nôtres a raconté comment à Pise, ayant eu la cuisse percée d'un coup de pique de part en part, il pensa que c'était une mouche qu'il avait piquée. Un autre a dit qu'il n'avait pas de miroir dans sa chambre parce que, quand il se courrouçait, il devenait d'un aspect si terrible qu'en se voyant, il se ferait trop peur à soi-même. Et donc, tous ces excès ridicules, comiques, qui produisent donc le rire, soit dans l'histoire racontée, soit dans la société d'Urbino, ont toujours cette même fin qui est d'introduire ce qui va devenir un élément essentiel pour la pratique de la sprezzatura, c'est-à-dire cette idée de la modération. Et de même pour le corps, les maintiens qui marquent un excès de raideur, comme le danseur qui croyait cacher son arme et du coup il mettait tant d'efforts qu'il le dévoilait, sont aussi critiqués. Alors on voit que la conversation ensuite s'achève autour de la sprezzatura, par sa possible extension, et en particulier contre du côté du rejet de ce contre quoi elle est construite, c'est-à-dire un excès de l'affectation, aussi bien dans la musique que dans la peinture. Et c'est là où le Seigneur Magnifique entre pour montrer que, de la même façon, un excès d'affectation dans l'harmonie détruit la beauté de la composition musicale, ou que le conte lui-même reprend sur l'idée que dans la peinture, il en va de même. On dit aussi que chez certains excellents peintres anciens, un proverbe voulait que trop d'application fut nuisible et que Protogène a été blâmé par appel de ce qu'il ne savait pas lever les mains de son tableau. Et il continue, cette vertu donc contraire à l'affectation que nous appelons pour l'heure sprezzatura, outre qu'elle est la vraie fontaine d'où découle la grâce, comporte encore un autre ornement qui, en accompagnant n'importe quelle action humaine, si petite soit-elle, non seulement découvre aussitôt le savoir de celui qui l'a fait, mais souvent le fait estimer beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité, car il imprime dans les cœurs des assistants l'opinion que celui qui si aisément fait bien sait beaucoup plus que ce qu'il fait, et que s'il mettait de la peine et du soin à ce qu'il fait, il pourrait le faire beaucoup mieux. On retrouve la même idée du comportement comme une machine à produire des effets, puisque là, qui est repris dans ce passage avec lequel je vais terminer, c'est non seulement ce qui a été la thématique de l'introduction de la sprezzatura, elle est la fontaine, la source d'où découle la grâce. Et la grâce est ce qui doit accompagner chacune des actions et des dires. Mais en même temps, elle est, lorsqu'elle est maniée avec cette modération et cette simplicité qui permettent d'occulter l'art et de faire passer pour naturel ce qui a été le résultat d'un travail, elle a aussi cet effet en surplus de produire chez celui qui la voit et qui l'aperçoit l'idée que celui qui est doté de cette grâce maniée avec sprezzatura en sait plus que ce qu'il ne montre, qu'il y a comme un savoir qui lui est présent mais qui n'est pas ostensiblement montré. Que ceci soit vrai ou faux, finalement, peu importe. C'est ce qui est produit chez l'autre. Je crois que c'est un point essentiel de la lecture de tous ces textes, et non pas les rabattre sur l'idéologie ou sur les intentions, soit de l'auteur, soit des personnages qu'il met en scène, mais de les comprendre comme étant des dispositifs qui doivent produire de l'effet. Et le mot « grâce » de ce point de vue-là est particulièrement bien choisi puisqu'on l'a vu dans les définitions anciennes, dans le sens commun, le sens moderne. C'est à la fois une propriété de celui qui peut montrer de la grâce en toute chose, en toute action, en toute parole, et c'est en même temps que ce que perçoit celui à qui est destinée cette montre de la grâce, et qui donc du coup peut faire grâce, faire des grâces, donner des grâces, et c'est cette position qui, de l'admiration, va vers, vers le présent, la reconnaissance. Et tout le texte, comme le texte que j'avais étudié de l'Oraculo Manuali Arte de Prudentia de Gracian, et on pourrait dire tous les traités de civilité, sont fondés sur cette idée que les comportements sont comme du machine de théâtre, en quelque sorte, produire des effets. Ils peuvent s'appuyer sur la sincérité du sentiment. C'était la tradition fondée par Erasme. Ce que l'on fait ou que l'on montre est une forme de traduction de ce que sont les qualités ou les défauts de l'âme. Mais de plus en plus, elle se détache. Il y aura comme une distance ou un détachement entre cette vision-là de la conduite, de la civilité, du comportement, pour faire que ce qui est le sentiment profond puisse être donc réel ou fin, n'a pas d'importance par rapport à la mécanique de la production de l'effet sur l'autre. Alors j'en reste là, la fois prochaine je terminerai avec cette partie proprement italienne en suivant quelques-unes des rééditions du texte de Castiglione et en montrant comment de plus en plus il va se basculer du côté d'un manuel et d'un recueil de préceptes, alors même que son intention était de montrer un jeu, et d'autre part d'attaquer la question la plus fondamentale que je voulais poser dès le commencement, c'est-à-dire je n'ai pas traduit sprezzatura, comment les autres traducteurs en espagnol, en français, en anglais, en latin du XVIe siècle se sont confrontés à ces difficultés, puisque eux au moins ne pouvaient pas se permettre cette liberté que j'ai prise ce matin, c'est-à-dire ne pas traduire. Merci. Merci.